Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Shems Edith Hafiz manifeste contre le terrorisme islamiste. Dans un ouvrage paru en août 2021 aux éditions Éric Bonnier, Manifeste contre le terrorisme islamiste, son auteur, Shems Edith Hafiz, avocat au barreau de Paris et recteur de la Grande Mosquée de Paris depuis janvier 2020, dénonce avec force la dérive islamiste, s'efforçant de rendre à l'islam son véritable message ancré dans les valeurs de la République. Extrait de l'introduction intitulé « L'islam engendre-t-il la violence ?» J'ai sollicité un panel représentatif afin de produire une réflexion sérieuse sur ce thème essentiel. L'islam engendre-t-il la violence ? Ce travail est donc le fruit d'une réflexion collective synthétisée par mes soins. Quand j'ai lu leur contribution, je n'ai pas hésité à m'infliger un reproche. Pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas pensé réaliser un tel travail plus tôt ? Je le souligne, car l'extrémisme, à ne pas en douter, s'alimente aussi de nos silences, de nos renoncements et de nos lâchetés. Mais pas seulement les préjugés négatifs contre l'islam sont aussi, le plus souvent, la conséquence du refus de la majorité de dénoncer ouvertement et clairement l'extrémisme. Il est temps d'y remédier. La lutte contre le terrorisme passe par une relecture des textes fondamentaux de l'islam et une explication apaisée et débarrassée des éructations abusives d'individus haineux. Dans cette confrontation entre les lumières et les ténèbres, les imams sont des acteurs incontournables. Ils constituent l'épine dorsale de cette œuvre majeure qui nous attend. Sans eux, ce document n'aurait jamais existé. Qu'ils en soient remerciés. La Grande Mosquée de Paris se positionne sur le plan international comme une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée pour renforcer les liens et consolider le commun. Je suis conscient que l'impact de notre action va au-delà de cette dimension bilatérale. Le monde musulman nous observe, ballotté entre deux idées contradictoires. D'une part, des prosélytes guerriers dépeignant une France laide et cruelle qui malmènerait ses musulmans. D'autre part, une réalité méconnue ou niée, celle d'un islam ayant toute sa place sur le territoire de la République. Une vérité que seul un esprit honnête pourrait reconnaître, car un pays qui compte 2500 lieux de culte musulmans est-il vraiment défavorable à l'islam ? La campagne haineuse lancée contre la France par des milieux et des réseaux hostiles m'amène là aussi à assumer mes responsabilités et à rétablir des vérités. L'islam pratiqué en Algérie et plus globalement dans l'ensemble des pays du Maghreb et d'Afrique est conforme aux principes et aux lois de la République, quoi qu'on en pense. La liberté de culte, il est important de le marteler, est une notion fondamentale garantie par la laïcité. Même si quelques différences secondaires existent entre l'exercice du culte dans un pays musulman et dans des démocraties laïques, celles-ci ne sauraient représenter un point de blocage. Dans un pays musulman, l'imam conduit la prière, s'adresse à un auditoire musulman. En France, la pratique de l'imam évolue vers de nouvelles dimensions car il s'agit d'expliquer aussi à la société d'accueil la foi musulmane et ses grands principes. Le religieux musulman doit expliquer la notion de miséricorde et doit le faire avec pédagogie, en gardant à l'esprit une double contrainte. La méfiance et l'hostilité que sa présence peut susciter par méconnaissance et préjugés. Parfois, l'animosité s'exprime dans sa propre mosquée de la part d'individus qui viennent jeter le discrédit sur sa légitimité. Pourtant, ces hommes courageux poursuivent leur mission et découvrent avec un grand bonheur les similitudes entre les valeurs de l'islam et celle de la République. S'élever à un niveau supérieur, c'est donc pouvoir discuter des valeurs universelles comme la liberté de conscience. Très souvent, j'entends ces hommes de Dieu réciter ce verset. Point de contrainte en religion, sourate 2, verset 256. Des menaces sérieuses pèsent sur la société française et sur les musulmans. À peine arrivé à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'avais annoncé devant la presse mon intention d'engager l'institution que je dirige dans un long processus de prévention à la radicalisation. Ce phénomène que les sciences politiques nomment « terrorisme islamiste ». Nous en sommes convaincus, est un danger pour la République, sa sécurité et sa stabilité, et, dans le cas des sociétés plurielles ou multiculturelles, un risque majeur pour le vivre ensemble. Il est également un péril pour les musulmans eux-mêmes, car ce terrorisme légitime ces actions par une lecture erronée des textes sacrés. Pourtant, cette menace est incarnée par une minorité qui, à travers l'histoire, a visé en premier lieu les musulmans eux-mêmes. Il est nécessaire de le rappeler car l'islamisme, avant de tuer en Occident, avait commencé par fracturer les pays musulmans eux-mêmes et à décimer leur société. Nous vivons une époque tourmentée. Les postures radicales s'expriment de différentes manières désormais et se traduisent par des outrances verbales, par des campagnes d'intimidation et de menaces ou par des actes de violence. Dans ce contexte, depuis quelques années, des pratiques criminelles sont produites par des personnes se réclamant de l'islam, ce qui est évidemment contraire à la lettre et à l'esprit de notre croyance, qui demeure une religion de paix, de concorde et de fraternité. Nous ne cesserons d'appeler nos coreligionnaires, à commencer par les plus jeunes d'entre eux, à se méfier des interprétations approximatives de nature guerrière. Ces mêmes interprétations littéralistes primaires, produites le plus souvent par des extrémistes et par le tout venant, sont un réel danger en premier lieu pour les musulmans. C'est ce discours vindicatif d'imams autoproclamés qui pervertit, en effet, les relations des musulmans avec le reste du monde, notamment occidental. C'est ce qui a conduit au malentendu historique de ce début du XXIe siècle. Il y a suffisamment d'esprits éveillés et sains pour rendre notre monde plus agréable et plus sûr. Cependant, cette intelligence ne peut s'exercer sans un catalyseur majeur, l'honnêteté intellectuelle. Les érudits musulmans ainsi que tous ceux qui ont le privilège de représenter l'islam ne doivent plus se taire face à l'infâme. La parole ne doit plus être laissée aux criminels, à leurs idéologues et à leurs sponsors. Nous devons arrêter de croire que le malaise du monde musulman vient uniquement de forces extérieures qui seraient en train d'œuvrer à sa destruction. Quittons ces logiques complotistes et abêtissantes et de surcroît indignes et indécentes, car en vérité, soyons honnêtes et mettons-nous à la place de cette femme new-yorkaise qui le 11 septembre 2001, dans cette scène apocalyptique, sortait d'un immeuble en fumée couverte de poussière. De ce chaos infernal, elle retiendra que les auteurs étaient musulmans. Lui vient alors à l'esprit une succession d'images où s'entremêlent la sauvagerie et une religion qu'elle ne connaît qu'à travers des informations éparses. Des noms qui lui étaient totalement étrangers. Allah, la Mecque, le Coran ou encore le djihad. Que dire à cette dame? Que dire aujourd'hui à l'enfant d'une victime du 11 septembre 2001? Aujourd'hui, c'est un jeune homme ou une jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette même question s'impose à mon esprit, 20 ans plus tard, après un autre drame. Que dire à l'enfant de Samuel Paty quand il grandira et saura qu'un homme a décapité son père au nom de l'islam? Nous ne pouvons pas, en tant que musulmans, nous confiner dans le discours victimaire et faire mine de ne pas voir que certains de nos coreligionnaires continuent de menacer et de tuer au nom de notre religion.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.